Tous, il est 18h15 à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques, de débats et de dialogues sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé désormais de 45 radios partenaires émettant dans toutes les 8 régions du Niger. Ce soir, nous vous proposons le thème « Quelle prise en charge médicale et sociale pour une vie épanouie des personnes atteintes d'albinisme au Niger ?» Souvent définie par les spécialistes comme étant une maladie génétique héréditaire résultant d'un déficit de mélanine. L'albinisme est une maladie présentant des affections de la peau. Une maladie rare, non transmissible, présente sous diverses formes, indépendamment de l'appartenance ethnique et du genre, jadis peu connue. Au cours de ce forum, nous chercherons à mieux comprendre avec nos invités ce que signifie l'albinisme, quel est le mode de transmission de cette maladie, quels sont les différents types d'albinisme, comment les personnes atteintes d'albinisme sont-elles prises en charge au Niger sur le plan médical, quelles sont les difficultés auxquelles font face les personnes atteintes d'albinisme à l'école et dans la vie active. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité Madame Khadija Toumoumouni. Elle est la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, une association qui lutte depuis novembre 2013 en faveur des droits des personnes atteintes d'albinisme. Madame la présidente, bonsoir.
Bonsoir.
Et au téléphone, nous avons le docteur Idé Hassan. Il est dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey. Docteur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
À la présentation, Michel Dégé. Pour commencer, Madame Khadija Toumoumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger. Faut-il dire personne atteinte d'albinisme ou albinos?
Alors, merci beaucoup, Monsieur Michel. Merci au studio Kalangou pour m'avoir donné cette occasion de pouvoir échanger avec vous par rapport à la situation des personnes atteintes d'albinisme au Niger. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler? Personne atteinte d'albinisme ou albinos? Alors, quand vous prenez la terminologie, avant, on utilisait le mot albinos tout simplement. Mais vu le mouvement au niveau international qui se fait, vu l'avènement de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et surtout quand il y a eu la nomination de l'experte indépendante près des Nations Unies sur l'exercice des droits humains par les personnes atteintes d'albinisme, on a commencé à changer la tendance. Parce que albinos, ça veut dire blanc. Alors, on ne met pas l'accent sur le fait que c'est une personne, mais plutôt c'est sur son apparence qu'on met l'accent. C'est péjoratif, ça diminue la personne, on réduit la personne à sa condition. C'est juste la condition, on qualifie la personne à travers sa condition. Parce que la personne, elle a l'albinisme, alors on dit c'est un albinos, tout simplement, mais on ne voit pas la personne, mais c'est juste sa condition.
Ça veut dire qu'il faut mettre en avant la dignité.
Tout à fait, absolument. Mais quand vous dites « personne atteinte d'albinisme », ou bien personne albinos, on comprend d'abord que c'est une personne avant tout. C'est une personne avant tout, ensuite vient sa condition. Mm-hmm. C'est comme l'appellation pour les personnes handicapées. La Convention relative aux droits des personnes handicapées dit personne handicapée. C'est d'abord une personne, ensuite l'handicap vient. Pour mettre en valeur la dignité de la personne. Ne pas qualifier la personne uniquement à travers sa condition. On comprend que c'est d'abord une personne, un être humain, sujet de droit, ensuite vient sa condition. Sa condition, en fait, n'est rien d'autre qu'une diversité. De toutes les façons, c'est une personne, comme toutes les autres personnes, qui est membre de la communauté, de la société, mais qui a une diversité, qui a des différences par rapport aux autres.
Et qui peut apporter sa contribution d'ailleurs. On verra tout cela dans cette émission. Nous avons en ligne le docteur Idé Hassan. Il est dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey. Docteur, en tant que spécialiste du domaine, comment vous définissez l'albinisme?
Merci. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de de vous remercier pour m'avoir associé à cette importante émission qui traite sur une question d'actualité.
Merci, docteur.
Qui est l'albinisme. Pour définir l'albinisme, c'est vraiment un groupe de maladies héréditaires qui se caractérise par une diminution ou une absence de la coloration normale de la peau, des poils, des cheveux et des yeux.
Alors, docteur, comment on fait le diagnostic de l'albinisme?
Le diagnostic de l'albinisme, il n'y a pas d'examen complémentaire pour diagnostiquer une personne atteinte de l'albinisme. C'est juste en l'observant, surtout particulièrement sous nos yeux, où les gens ont une peau noire. Donc, à la naissance, l'enfant n'a pas l'aspect normal de tous les autres enfants. Il a vraiment une absence de la pigmentation.
Donc, dès à la naissance, on peut constater que l'enfant est atteint d'albinisme.
Oui.
Alors, Madame Khadija Toumoumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, pour vous, que signifie vivre avec l'albinisme dans un pays comme le Niger?
Vivre avec l'albinisme dans un pays comme le nôtre, le Niger, un pays africain, je pense que dans votre introduction, vous avez énuméré un certain nombre d'avancées. C'est vrai qu'on prend conscience de tout ce qui tourne autour de l'albinisme, mais il y a toujours certains problèmes qui tournent autour de l'albinisme. Alors, le premier problème qu'une personne atteinte d'albinisme peut vivre dans une société noire en Afrique, c'est vraiment la stigmatisation, la discrimination. Alors, d'aucuns pensent qu'au Niger, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas discriminées, ne sont pas stigmatisées. Alors, je vous dis que la stigmatisation continue autour de la question de l'albinisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous parlez du mot stigmatisation?
Alors, la stigmatisation, c'est le fait de montrer à une personne sa différence, la traiter négativement. Quand vous prenez, même dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, il y a certains traitements. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde, c'est vrai qu'il est à reconnaître que la société nigérienne, c'est une société tolérante. Alors, on n'est pas à comparer avec certains États, certains pays, mais le fait qu'il y a cette différence, le fait qu'il y a cette apparence qui est différente, qu'on a la peau blanche, suffit seulement souvent pour créer cette stigmatisation. Nous avons fait des déplacements, nous avons fait des actions, et à Niamey, à l'intérieur du pays, au niveau de certaines régions, nous avons des témoignages, beaucoup de témoignages des personnes atteintes d'albinisme. Où il y a des gens qui nous témoignent que même quand ils vont dans des cérémonies, quand la personne, elle met sa main dans le plat, il y a des gens qui ne veulent pas mettre leur main dans ce plat. Il y a une femme aussi, Guiderumji, en fait, c'était presque le même problème, qui nous témoignait du fait que c'est une femme atteinte d'albinisme, mais qui s'est mariée. Alors, elle était dans la belle famille. Quand elle prépare chaque fois, la belle famille ne veut pas manger. Alors, c'était un problème pour son foyer et finalement, le mariage était parti comme ça. Il y avait aussi un monsieur, c'était Cornaca, je pense, qui disait que lui, même quand souvent, quand il vient, il trouve les gens, quand il donne la main à certaines personnes, elles ne prennent pas la main. Quand vous prenez le domaine du mariage, alors, je dirais, les hommes, tout comme les femmes atteintes d'albinisme, ont des difficultés. Mais je dirais que les femmes ont plus de difficultés que les hommes.
C'est-à-dire les femmes atteintes d'albinisme
ont plus de difficultés.
À se marier.
Parce qu'on a eu des cas, on a des femmes qui sont mariées. Mais qu'avant le mariage, c'était des problèmes. Alors, la belle famille, un monsieur, il rencontre une femme atteinte d'albinisme. Ils sympathisent, ils veulent se marier. Maintenant, l'obstacle, c'est la belle famille. Alors, on dit, tu veux nous amener des histoires dans la famille. Tu veux nous amener des enfants atteints d'albinisme dans la famille. Comme si la femme atteinte d'albinisme a une origine différente. Non, nous n'avons pas une origine différente. Nos parents ont la peau noire comme les autres. Les papas, les mamans, ils ont la peau noire. Il n'y a pas une origine différente pour les personnes atteintes d'albinisme. Alors, pourquoi quelqu'un qui est de la société, mais la société refuse de l'accepter? Le domaine du mariage, c'est vraiment le domaine parfait, l'exemple parfait pour montrer la stigmatisation.
Vous avez soulevé une question un peu délicate. Nous allons poser la question à Dr Idé Hassan, qui est dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey, où vous partez d'ailleurs pour vos consultations en tant que personne atteinte d'albinisme. Docteur, est-ce qu'il y a un danger alors à manger, à saluer ou à rester ensemble avec une personne atteinte d'albinisme?
J'avais dit tantôt que c'est une maladie héréditaire. Donc, ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie infectieuse qu'on attrape dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a aucun problème, aucun danger à partager le même lit, à manger dans le même plat, ou bien à serrer ou embrasser une personne atteinte d'albinisme.
Merci à vous donc, docteur, pour cet éclairage. Kadidiatou Moumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger. Quel type de plaidoyer mène alors votre association auprès des autorités et des populations afin que l'albinisme puisse être mieux compris par la société?
Alors, le plaidoyer, c'est dans le but d'amener les décideurs à prendre en compte l'albinisme et la situation des personnes atteintes d'albinisme dans tout ce qui est programmé comme action de développement. Alors, je dirais que l'ANAN met en œuvre notre association met en œuvre des projets. On a aussi un partenaire qui est la fondation Raoul Folero.
Qui est une fondation qui appuie les personnes lépreuses.
Tout à fait. Mm-hmm. Qui a commencé à intervenir sur l'albinisme en 2018. Alors, nous faisons des actions de sensibilisation. Nous sensibilisons les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, les familles, par rapport à la santé, la protection dermatologique, ophtalmologique, par rapport à la prise en charge. Il y a aussi un projet que nous menons avec un partenaire qui est Oxfam, à travers le programme Voice au Niger. C'est un projet de sensibilisation des communautés. Parce qu'il y a une perception négative de la question, ce qui entraîne les préjugés. Alors, la sensibilisation, c'est la meilleure stratégie que nous avons adoptée pour toucher les populations par rapport à la question. Pour faire comprendre que les personnes atteintes d'albinisme, en fait, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas quelque chose qui peut empêcher la personne de participer à la vie sociale, de participer au développement de sa communauté. Elle peut tout faire en dehors de ce qui peut l'exposer au soleil. Tout ce qui ne concerne pas l'exposition au soleil ou bien qui ne met pas en danger l'aspect oculaire. Mais la personne peut tout entreprendre. Elle peut étudier. Elle peut travailler, elle peut faire des activités économiques, autre que travailler dans un bureau. Alors, c'est la sensibilisation des communautés, c'est la sensibilisation des enseignants, par exemple, des élèves, pour faire comprendre que, en fait, l'albinisme, quand vous voyez les personnes atteintes d'albinisme, ce sont des personnes comme toutes les autres personnes. Alors, la seule différence, c'est la condition, c'est la peau. Alors, là aussi, c'est vraiment une diversité. Le monde est plein de diversité. Il n'y a pas que les personnes atteintes d'albinisme. Il y a beaucoup d'autres diversités. Alors, c'est quand on accepte la diversité aussi qu'on évolue, qu'on est riche. Donc, c'est vraiment la sensibilisation que nous menons à l'endroit des populations et aussi à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme et des familles elles-mêmes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de sensibiliser la communauté. Souvent, quand vous prenez, surtout au niveau des zones un peu reculées, même quand on prend à l'intérieur du pays, c'est souvent le comportement de la société qui fait en sorte que les personnes atteintes d'albinisme se replient sur elles-mêmes. C'est que la personne elle-même, elle commence à être convaincue qu'elle, elle n'est pas capable. Qu'elle, elle n'est pas comme les autres personnes de la communauté. Qu'elle, elle n'a pas le droit d'être impliquée, d'être informée dans tout ce que la société entreprend. Voilà ce qui crée l'auto-marginalisation. Parce que dès que quelqu'un va vous approcher, il crache. Ou bien vous dit, eh, va là-bas, toi, là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que toi, tu vois même pour travailler? Il y a eu des cas comme ça, beaucoup de cas pour les élèves. On vous dit, est-ce que toi, tu peux voir même pour étudier? Est-ce que toi, tu peux étudier? Regarde comment tu es. Mais quand on vous traite comme ça, de cette manière, souvent, ça amène la personne elle-même à dire, finalement, bon, c'est comme ça, les gens ont raison. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je n'ai pas de capacité, je ne peux pas faire. C'est le problème que ça crée au niveau des personnes atteintes d'albinisme. Donc, l'action, c'est d'amener les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes. C'est de les sensibiliser d'abord. De leur faire comprendre que vous êtes des êtres humains. Tout le monde n'est libre. Les droits humains, c'est pour tout le monde. Personne ne vous dépasse en droit et en devoir. Le fait que vous êtes dans la condition, c'est expliqué scientifiquement ou bien médicalement. Alors nous, religieusement, on dit C'est Dieu qui crée ce qu'il veut. Alors, le fait que vous êtes dans la condition, ça ne fait pas de vous des sous-humains. Vous devez comprendre que vous êtes des êtres humains et que vous avez des droits. Personne ne vous dépasse en droit. Tout ce que vous voyez la société entreprendre, allez-y avec la société. Ne vous laissez pas faire. Voilà ce que nous faisons à l'endroit du groupe cible, les personnes atteintes elles-mêmes. Parce que même si nous, on fait le travail du côté de la communauté, des autres, pour leur dire, voilà l'albinisme, c'est vraiment une condition génétique, c'est pas une malédiction, et que vraiment ce sont des personnes, la société, s'il vous plaît, accepter les personnes atteintes d'albinisme. Mais si les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes ne comprennent pas qu'elles sont des personnes, qu'elles doivent aller vers la communauté, qu'elles ont des droits, ça ne peut pas aller.
Merci à vous, Présidente. Nous allons à présent poser la question à Dr Ide Hassan, dermatologue au Centre national dermatolèpre de Niamey. Docteur, pouvez-vous nous expliquer alors le mode de transmission de cette maladie qu'est l'albinisme?
Si, c'est une maladie génétique à transmission héréditaire. Donc, la transmission n'est pas liée au sexe. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement que les deux parents soient obligatoirement porteurs du gène pour que les enfants qu'ils vont avoir soient atteints de la maladie. C'est ça la transmission. Donc c'est une maladie génétique à transmission très rare.
Il faut que les deux parents soient porteurs.
Il faut que nécessairement chacun des deux parents doit porter obligatoirement le gène pour que la descendance présente la maladie. Ils sont des porteurs sains. Ils ne manifestent pas la maladie. Donc c'est à ce moment quand deux personnes qui portent le gène, l'anomalie, c'est en ce moment qu'ils peuvent avoir des enfants malades. La probabilité d'avoir un enfant albinos est 4 fois plus élevée que ces deux personnes. Le risque est là pour chaque grossesse. Ils vont avoir des enfants normaux, comme ils vont avoir des enfants malades, c'est-à-dire les enfants qui ne présentent pas la maladie d'albinisme et des enfants qui vont présenter la maladie.
Mais docteur, est-ce qu'il y a alors un dépistage ou un examen à faire pour savoir si on est porteur ou non de la maladie avant le mariage?
Bon, les examens prénuptiaux dans nos contextes ne sont pas réguliers et on n'a pas les moyens de le faire sous nos yeux.
Et docteur, quels sont les différents types d'albinisme que nous avons?
Les différents types d'albinisme que nous avons, ils sont au nombre de trois.
Trois.
Donc, deux qui sont fréquents, la forme la plus sévère, qui entraîne des manifestations de la peau et des manifestations oculaires très sévères, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est surtout les manifestations oculaires qui sont sévères. Et le troisième type qui est très rare, qu'on appelle communément les roux, c'est surtout le troisième là qui est fréquent, qu'on voit beaucoup plus en Afrique.
Docteur Ide Hassan, quels sont les différents problèmes de santé que rencontrent souvent les personnes atteintes d'albinisme?
Bon, les personnes atteintes d'albinisme sont sujets à des problèmes de santé tels que les problèmes de la peau, comme j'avais dit, les problèmes ophtalmologiques. Pour les problèmes de la peau, il y a une absence de coloration normale de la peau. Et tout au long de la vie de la personne, surtout dans le jeune, dans l'enfance, si l'enfant n'est pas protégé contre le soleil, il y a un vieillissement précoce de la peau, il y a des lésions précancéreuses qui vont se former, puis des cancers au niveau de la peau.
Et au niveau des yeux?
Maintenant, au niveau oculaire, il y a une photophobie, c'est-à-dire ils ont peur de regarder la lumière. Ils ont une baisse de l'acuité visuelle et ce que nous appelons un nystagmisme et un strabisme. Vous voyez, quand vous regardez, vous êtes en face d'une personne atteinte d'albinisme, quand vous regardez ses globes oculaires, les yeux ne laissent pas sur place, ils sont en train de bouger. C'est ça.
Oui. C'est dû à quoi?
Ça, c'est le problème est lié au niveau du nystagmisme et le strabisme. C'est ça.
Et comment les personnes atteintes d'albinisme sont médicalement prises en charge au Niger, docteur?
Bon, merci de nous poser cette question. Les personnes atteintes d'albinisme, il n'y a pas un canevas pour les prendre en charge. C'est au cas le cas. Et si on comprend bien, s'ils suivent les protections, ils vont développer moins de maladies liées à leur état. Donc, il faut nécessairement qu'ils soient régulièrement suivis par un dermatologue. Maintenant, le problème qui se pose au Niger, il n'y en a pas de structure dédiée à ça. Et la formation générale évoque moins les prises en charge. Comme j'avais dit, c'est au cas par cas, quoi. Donc, ça dépend de ce que le malade présente. Le dermatologue le prend en charge.
Docteur, est-ce qu'il existe des chiffres par rapport au nombre des albinos au Niger, mais aussi dans le monde.
Au Niger, on n'a pas de statistiques. Nous sommes avec la présidente, elle, à leur niveau, elle peut vous donner les chiffres, mais médicalement ou bien statistiquement parlant, au Niger, à notre niveau, on n'en a pas de chiffres. Maintenant, il y a des estimations mondiales. Et en Afrique, il y en a quelques chiffres.
Oui.
Quand vous prenez, au niveau mondial, il y a un albinos sur 20 000 personnes.
1 sur 20 000.
Oui, sur 20 000. En Afrique, il y a un albinos sur 4 000.
1 sur 4 000.
Oui.
Ça veut dire que le taux de prévalence de l'albinisme est beaucoup plus élevé en Afrique que dans les autres continents. Merci à vous, docteur. Madame Khadija Toumoumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger. D'abord, en ce qui concerne les chiffres, vous qui faites l'intérieur du pays et qui allez à la rencontre des personnes atteintes, est-ce que vous avez déjà une idée approximative des chiffres en ce qui concerne les personnes albinos au Niger?
Le dernier recensement général de la population et de l'habitat qui datait de 2012, l'association n'était pas encore créée. Alors, quand on allait faire le recensement, il y a eu un plaidoyer, un mouvement de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui regroupe beaucoup d'associations comme l'association des non-voyants, l'association des personnes sourdes, l'association des personnes handicapées physiques. Mais l'association des personnes atteintes d'albinisme n'était pas encore née. Alors, le plaidoyer a été fait et on a pris en compte les personnes handicapées. 4,2% de la population au Niger en 2012 sur les 17 millions d'habitants. Mais il n'y a pas de trait par rapport aux personnes atteintes d'albinisme. L'albinisme n'était pas pris en compte. Donc, on n'a pas de statistiques officielles, mais on a des chiffres. Quand vous prenez les personnes aveugles, vous prenez les personnes sourdes, les personnes handicapées physiques, les personnes guéries de la lèpre, vous allez trouver des statistiques par rapport à chaque type de handicap, selon le recensement, le dernier recensement général. Bon, il n'y a pas de données officielles au Niger sur la population des personnes atteintes d'albinisme, mais pour le moment, nous, on intervient à Niamey, Maradi, Zende. Bon, cette année, on a l'intention d'intervenir aussi dans la région de Tillabéri. Dans le cadre des activités que nous menons, nous arrivons à collecter des données. Niamey, on peut maîtriser la situation. Mais même au niveau des régions où nous intervenons, Maradi par exemple, Zender, c'est que c'est la situation au niveau de la ville.
C'est-à-dire le chef-lieu.
Le chef-lieu de région. Nous faisons des activités, nous faisons des rencontres et nous profitons pour collecter des données. Et après, quand on quitte, on laisse le travail au bureau qui est là-bas pour continuer s'il y a d'autres personnes qui puissent les lister, les recenser. Mais on n'a pas eu les moyens. On était limité. Comment aller vers les départements? Comment aller jusqu'au niveau des communes? C'est vrai que dans le cadre du projet Voice dont je vous parlais, on était au niveau de 3 départements de Maradi. Là aussi, on a eu à collecter des données. Mais c'est que ce ne sont pas des chiffres officiels. Ce sont les données de l'association que nous collectons dans le cadre des activités que nous menons. Alors, quand je prends Niamey, on s'approche de 100. Maradi, au niveau de la ville de Maradi, ils sont plus de 50, 60 comme ça. Zender, on n'a pas encore la situation. Dans le cadre d'une caravane de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, on était à Magaria, Matamey et Myria. Alors, à tous ces niveaux, on a rencontré des personnes, on a profité pour rencontrer, on a vu des personnes atteintes d'albinisme qui étaient venues. Ça veut dire, quel que soit l'endroit, au niveau des départements, au niveau des communes, les personnes sont là. Mais maintenant, quels sont les moyens
à votre disposition pour pouvoir les toucher, les sensibiliser? C'est cela qui fait défaut, on a l'impression.
Tout à fait.
Merci à vous. On va à présent aborder également la question de la problématique de la prise en charge médicale des personnes atteintes d'albinisme. Madame Khadija Toumoumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, comment se fait cette prise en charge à Niamey, mais aussi à l'intérieur du pays?
La prise en charge dermato-ophtalmo. Alors, la prise en charge, on a un cadre global de référence avec toutes les autres personnes handicapées. Parce qu'il y a un décret qui a prévu la gratuité des consultations 100% pour toutes les personnes handicapées. Alors, on peut mettre les personnes atteintes d'albinisme dans cette catégorie, elles peuvent bénéficier de la gratuité. Mais ça, c'est quelle que soit la maladie, vous voulez vous faire consulter, vous partez au niveau de votre service social, de votre commune, ou bien au niveau de la direction régionale de la population, parce que c'est le ministère de la population qui est le ministère de tutelle, vous prenez la prise en charge, vous partez à l'hôpital, vous ne payez pas les frais de consultation, vous ne payez pas le lit, mais vous allez payer les ordonnances. Ça, c'est la prise en charge pour les personnes handicapées. Mais ça, c'est pour toutes les maladies. Mais pour nous, qu'est-ce que la prise en charge signifie? Moi, quand on parle de prise en charge chez les personnes atteintes d'albinisme, je vois l'aspect dermatologique et je vois l'aspect ophtalmologique. On est dans le plaidoyer avec le ministère de la Santé. Parce que nous, nous ne voulons pas que quelque chose qui est lié à l'albinisme. Une personne qui doit se faire consulter régulièrement, peut-être chaque 3 mois, même si vous n'avez pas de plaies, la personne doit se faire consulter par un dermatologue, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut prévenir. Parce que le cancer est très fréquent.
Donc chez les personnes atteintes d'albinisme.
Et c'est mortel, il faut prévenir le cancer.
On voit même des blessures au niveau de la peau.
Au niveau de la peau. Alors, nous, le plaidoyer dans lequel on est avec le ministère de la Santé, je parle globalement pour tout le Niger, je ne parle pas du cas de Niamey. Le cas de Niamey, c'est à part parce qu'il y a le Centre National Dermatolèpre. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, elles doivent se faire consulter au niveau des hôpitaux régionaux. Mais pour se faire consulter, il faut la prise en charge. Qui est valable pour toutes les personnes handicapées. Alors, nous, quand on parle de dermatologie, ophtalmologie, c'est les deux problèmes principaux pour les personnes atteintes d'albinisme. Nous n'avons pas besoin qu'on nous demande une prise en charge, un certificat de prise en charge pour se faire consulter. Ce que les médecins conseillent généralement, on dit, et même la pratique, quand vous prenez dans certains pays, chaque 3 mois, chaque 6 mois, on organise des consultations dermatologiques ophtalmo pour vérifier. Et en cas de besoin, la personne peut se faire consulter. C'est-à-dire souvent, c'est des consultations groupées qu'on organise pour vérifier. S'il y a quelque chose qui nous... Il faut vite intervenir. Mais il n'y a pas de cadre par rapport à tout cela. On n'a pas d'un système de prise en charge par rapport à tous ces aspects. On est dans le plaidoyer avec le ministère de la Santé. Et surtout, qu'on implique le Centre national de lutte contre le cancer. Parce que même cette année, on a eu des cas de cancer.
Chez les personnes atteintes
d'albinisme. Et la prise en charge, la chimiothérapie, ça coûte extrêmement cher. On a eu des cas où la personne, elle est venue de Balayara. Présentement, son cas, c'est très dégradé. Elle était venue de Balayara. Donc, elle n'avait pas les moyens de payer la chimiothérapie. Alors, on a dû faire recours à notre partenaire, la Fondation Raoul Folero. Parce que c'est le partenaire qui nous appuie dans le cadre de l'aspect dermatologique. Surtout pour les jeunes de Niamey. Parce qu'à Niamey, nous n'avons pas de problème pour les consultations dermatos. Parce que même notre bureau, c'est au niveau du Centre National Dermatolèpre. Et les consultations se font là-bas. Soit on a 2 médecins là-bas, Dr Idi Hassan qui est en ligne et Dr Gado. Quand la personne a besoin de consultations, elle s'est fait consulter là-bas. Et on a aussi un appui pour acheter les ordonnances pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui est toujours dans la subvention de la Fondation Raoul Folero. Mais ça, c'est vraiment l'avantage des gens qui sont au niveau de Niamey et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et quelqu'un qui se trouve à Agadez. Le mois passé, on a eu un cas de décès du cancer de la peau à Agadez. Quelqu'un qui se trouve à Maina Sarwa. Quelqu'un qui se trouve à Bani Bangou, qu'est-ce qu'on fait pour lui?
Ça veut dire que vous pensez que beaucoup reste à faire dans le cadre de la prise en charge médicale?
Beaucoup reste à faire. C'est vrai que dans la subvention achat produits médicaux, souvent on appuie les régions, surtout Zender, parce que Zender aussi, ils ont beaucoup de problèmes de peau là-bas, à Zender. Souvent on paye les ordonnances pour les... Mais ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le ministère de la Santé est en train de faire par rapport à cette question? C'est vrai que le Centre national dermatolèpre, c'est un centre de l'État. C'est pour l'État. Mais la question ne s'arrête pas à Niamey. Dans toutes les régions du Niger, on a des personnes atteintes d'albinisme. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Si Niamey, la situation de Niamey, on arrive à gérer. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait pour? C'est pour cela que vraiment on est dans un processus de plaidoyer avec le ministère de la Santé. Pour que l'État s'implique effectivement. Pour que quand on va à Maradi, pour que les personnes atteintes d'albinisme qui sont là, le bureau qui est là-bas, sache que quand j'ai un problème de peau, j'ai des plaies, voilà, je n'ai pas besoin de prise en charge. Je sais là où je peux aller voir le dermatologue. Voilà, et même prévoir la régularité par rapport aux consultations. Niamey, ce n'est pas payant. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, si elle n'a pas de prise en charge, elle va payer. Si elle ne sait même pas que la prise en charge là existe pour toutes les personnes handicapées, ça c'est pas pour les personnes atteintes d'albinisme uniquement, c'est pour toutes les personnes handicapées, la prise en charge pour les consultations. Si elle ne sait pas qu'elle peut avoir une prise en charge au niveau de la direction régionale de la population, pour se faire consulter, elle va payer.
On le voit justement, les personnes atteintes d'albinisme, on les considère comme des personnes handicapées au Niger, eu égard à la protection juridique dont elles bénéficient. On voit d'ailleurs que votre association est membre de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Merci pour les précisions que vous avez eues à faire. Mais qu'en est-il également de l'accompagnement social?
Alors, l'accompagnement social, cette année, en début d'année, on a rencontré le ministre de l'Éducation primaire par rapport à cette question. Par rapport au fait que les enfants atteints d'albinisme sont là, qu'ils vont à l'école, mais que même dans les prévisions budgétaires, ce qu'on prévoit pour les enfants handicapés, le matériel adapté, on ne prévoit pas les enfants atteints d'albinisme. Alors qu'il y a des aides techniques. Il y a par exemple l'usage des monoculaires, l'usage des verres correcteurs et autres. Alors, on a échangé avec le ministère de l'Éducation par rapport à tous ces aspects. Et quand on prend aussi l'accompagnement, moi, je ne vais jamais laisser le ministère de la Santé. Parce que l'albinisme, c'est un problème de santé. Donc, le ministère de la Population, c'est vrai, c'est notre ministère de tutelle. Mais le ministère de la Santé, on ne va pas l'écarter. L'aide sociale, les crèmes solaires. Vous savez qu'on a la peau
les
fragile.
Les crèmes solaires, c'est les crèmes que vous passez sur la peau pour être protégé contre le soleil.
C'est des produits, en fait, que quand on, avant de sortir, on utilise au niveau du visage, les parties qui sont vraiment exposées. Au niveau, 5 minutes avant de sortir, on applique ça au niveau du visage, au niveau des mains, avant de sortir. Alors, les crèmes solaires, nous, la dernière subvention que l'État nous a donnée, en référence au ministère de la Population, pour l'achat des crèmes solaires, c'était en 2015. Donc, après 2015, on n'a plus eu de subvention pour l'achat des crèmes solaires. Quand on a commencé avec le partenariat avec la Fondation Raoul Folero, c'est la Fondation Raoul Folero qui nous accompagne pour l'achat des crèmes solaires. Alors que c'est quelque chose qui doit être considéré comme un produit de première nécessité.
Pour les personnes atteintes
d'albinisme. De la même manière qu'on a des... Comment est-ce qu'on appelle les trucs là contre le sida?
Les antirétroviraux.
Voilà. C'est-à-dire, c'est une nécessité. C'est un produit de première nécessité. On doit l'utiliser pour prévenir le cancer. Parce que quand on sort au soleil et qu'on n'utilise pas la crème solaire, on ne met pas de vêtements protecteurs, on ne porte pas les chapeaux, on ne porte pas les lunettes solaires, on n'a pas de crème solaire, on sort comme ça. Mais avec le temps, ça conduit au cancer de la peau. Alors, la crème solaire, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose que l'État doit garantir. Alors, c'est vrai que le droit à la santé, c'est un droit programmatoire, comme on dit. C'est-à-dire que ça dépend des moyens dont l'État dispose. Mais de la même manière qu'on garantit le traitement ou bien les vaccins ou bien pour certaines maladies, c'est de cette même manière que la vie de la personne atteinte d'albinisme dépend aussi de cela. Si on dit que tout le monde a droit à la vie de la personne atteinte d'albinisme dépend de la crème solaire, je dirais. Parce qu'elle, quand elle sort sans crème, que ça soit grand, que ça soit enfant, que ça soit tout le monde, moi, je l'utilise tous les jours. Sa vie, le droit à la vie, sa vie dépend de l'usage de la crème solaire. Parce que sans crème solaire, surtout dans notre contexte au Niger où il fait extrêmement chaud, alors si vous n'avez pas, vous n'utilisez pas la crème solaire, il y a des risques d'avoir le cancer de la peau, de développer des plaies,
des problèmes oculaires. Docteur Idé Hassan, dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey, est-ce qu'il existe de traitement contre l'albinisme?
Merci. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un traitement contre l'albinisme. Même dans les pays développés, il n'y a pas un programme de développement de thérapie génique, c'est-à-dire de traitement par les gènes. Ils n'ont pas encore commencé à développer ça.
Mais il y a un suivi régulier qu'il faut respecter,
voilà,
alors.
J'allais venir à ça. La prévention, c'est surtout la prévention des complications, telles que la prévention des cancers, la prévention des troubles oculaires, qu'il faut faire régulièrement.
Et comment faire justement pour arriver à prévenir ces troubles au niveau de la peau, mais aussi les troubles oculaires?
Au niveau de la peau, tout à l'heure la présidente parlait de crème antisolaire. C'est nécessaire quand la personne atteinte d'albinisme sort sous le soleil qu'il passe cette crème. Mieux encore, il y a les protections vestimentaires. Et les protections vestimentaires consistent à porter des habits dont la couleur n'est pas foncée, particulièrement la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur rose et la couleur bleu clair. En dehors de ces couleurs-là, toute couleur qui est foncée entraîne une absorption des rayons solaires pour ces personnes. Même pas pour ces personnes atteintes d'albinisme, pour toutes les personnes. qui est sous le soleil, le port d'habits de couleur sombre n'est pas conseillé. Voilà. Au niveau de la tête, elle a parlé de port de chapeau, chapeau à large bord. Pour parler dans notre jargon, en termes local, bonfandou en germain, foulard kada en haoussa. Donc ça protège, ça permet à la personne d'être régulièrement dans l'ombre, quoi. Voilà. Maintenant, au niveau des yeux, il faut porter des verres de soleil pour protéger contre les rayons solaires. Et il faut régulièrement aller chez l'ophtalmologiste pour la prise en charge du strabisme et l'adopter à porter des verres correcteurs.
Docteur, est-ce que la maladie d'albinisme est une maladie qu'on peut prévenir? Si oui, comment?
On ne peut pas prévenir la maladie, parce que c'est une maladie génétique. D'autant plus que le texte qui permet de décéder l'anomalie, vraiment, il est très lourd. Même dans les pays développés, on ne fait pas cette prévention. On ne fait pas cette recherche. Donc, on ne le fait pas.
Docteur, existe-t-il des risques alors d'avoir des enfants atteints d'albinisme en cas de mariage avec une personne qui vit avec cette maladie?
J'avais dit dans la définition, dans le mode de transmission, qu'il faut nécessairement que l'un des parents soit porteur du gène de l'anomalie. Si l'un des parents n'est pas porteur de l'anomalie, même si c'est pari avec une personne atteinte de l'albinisme, ils n'auront pas d'enfants atteints de l'albinisme. Mais par contre, si la personne qui se marie porte le gène,
Même s'il est porteur sain,
il a le risque d'avoir un enfant malade, d'autant plus que l'albinisme porte le gène. Donc, s'il se marie, si son conjoint est porteur du gène, ils ont le risque d'avoir d'enfants malades. Quand les deux parents portent le gène, pour chaque grossesse, le risque est le même. Maintenant, c'est 4 fois plus élevé chez ces couples-là.
Merci à vous, docteur.
Je vous en prie.
Le 18 décembre 2014, c'est un rappel, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant à compter de 2015 le 13 juin, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Madame Khadija Toumoumouni, présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, que signifie pour vous cette journée et quelle est sa valeur ajoutée?
Alors, la journée, c'est vrai que la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme a été instituée par résolution des Nations Unies en décembre 2014. Alors, la première célébration, c'était en 2015. Alors, c'est une journée qui s'est inspirée du fait que le constat qui a été fait par rapport à la situation des personnes atteintes d'albinisme à travers le monde, c'est que les personnes atteintes d'albinisme étaient victimes de nombreuses violations de droits humains. La discrimination, la stigmatisation, les persécutions, les attaques, les meurtres. Parce que quand vous prenez certains pays, c'est encore plus dangereux. Les attaques, on rencontre une personne atteinte d'albinisme, on coupe son bras, on la trouve, on coupe son pied, on prend les cheveux. C'est des croyances en fait, on prend ses organes pour des croyances, pour se faire riche, pour avoir le pouvoir, pour se guérir du sida. On dit souvent quand vous bougez avec une personne atteinte d'albinisme, vous allez être guéri du sida. Il y a beaucoup de croyances par rapport à la question qui font en sorte que, surtout quand vous prenez l'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie, Burundi, le Malawi, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions. Beaucoup là où même quand on tue un enfant atteint d'albinisme, même pour l'enterrer, il faut l'enterrer à la maison. Parce que quand vous l'enterrez au dehors, les gens vont aller chercher, déterrer, enlever un membre. Les personnes vivantes, on vient la nuit, souvent on fait, comment est-ce qu'on appelle ça? On se fait complice avec le voisin de la personne même. On vient, on coupe son bras, ou bien on enlève le doigt, 2 doigts, 3 doigts, ou bien le pied, ou bien des choses comme ça. Donc c'est le constat qui a été fait par rapport à cette situation. Alors, ça avait commencé à interpeller la communauté internationale. Il y avait des experts des Nations Unies qui ont commencé à amener la question devant les Nations Unies. La situation des droits des personnes atteintes d'albinisme, c'est trop. On les persécute, ils n'ont pas de droits. Elles ne vont pas à l'école. Elles n'arrivent pas à avoir de soins. Elles n'ont pas droit aux soins adéquats de santé. Le cancer les tue à travers le monde, dans tous les pays, surtout en Afrique. Alors, il y a eu des experts, surtout un ancien ambassadeur de la Somalie qui représentait la Somalie, qui ont commencé à faire le plaidoyer. Alors, on a institué cette journée, effectivement, dans le but de sensibiliser les populations. Parce que leur situation est méconnue. Il faut d'abord démystifier. Il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi l'albinisme. Il faut d'abord que les personnes atteintes d'albinisme commencent à intégrer les communautés. Sensibiliser les communautés à travers des programmes, en impliquant les médias effectivement. C'est aussi Vraiment, ce qui nous tient en cœur, c'est l'aspect sanitaire, l'aspect dermatologique, ophtalmologique. C'est aussi l'aspect dermatologique, c'est-à-dire comment faire en sorte que plus jamais une personne atteinte d'albinisme ne puisse mourir du cancer de la peau. Oui, quel est le droit aux soins de santé? Les mesures de prévention. Que chaque personne atteinte d'albinisme puisse disposer de crème solaire, de chapeau, de lunettes pour prévenir. C'est aussi l'éducation des enfants. Parce qu'il y a l'acuité visuelle, comme le docteur Idé l'a souligné. Il y a une baisse de la vision qui est déficiente. De telle sorte que quand on envoie un enfant atteint d'albinisme à l'école, elle a des difficultés à avancer. Quand on prévoit des aides techniques, du matériel adapté, beaucoup de choses, qu'on pense à la situation des personnes atteintes d'albinisme, des enfants atteints d'albinisme qui vont à l'école. Qu'on les mette devant, ils ne doivent pas être derrière. L'enfant doit être placé au niveau des premières tables. Par exemple, l'enfant doit avoir des aides techniques, l'enfant doit avoir l'accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner un verre correcteur à un enfant. Non, les verres correcteurs ne corrigent pas totalement. C'est là aussi le problème au niveau de l'albinisme. Les verres correcteurs ne corrigent pas totalement. Alors, il faut l'implication de l'enseignant. Il faut vraiment un enseignant qui peut suivre.
Et sinon, qui encourage l'enfant.
Qui encourage et que des camarades, des voisins de table qui puissent accompagner l'enfant aussi. Sinon, ça ne pourra pas.
Docteur Idé Hassan, votre mot pour terminer.
Là, pour terminer, je donne l'information à l'Association nationale des albinos du Niger qu'il y a pratiquement dans toutes les régions, sauf si je me trompe, des dermatos. Il y a un dermatologue à Tillaberi, sans compter Niamey. Il y a un dermatologue à Zender qui va probablement couvrir Difa en cas de besoin. Il y a deux dermatos à Maradi et un dermato à Tawa.
Ça, c'est au niveau des chefs-lieux des régions. Elle a parlé des difficultés pour les personnes atteintes qui sont encore dans des zones beaucoup plus reculées et qui souvent n'ont même pas l'information qu'ils peuvent être consultés gratuitement.
Oui, voilà. Bon, les gens doivent les accepter et les accompagner. L'appel que j'ai lancé à la population, la présence l'a dit, les personnes atteintes d'albinos ne sont pas des personnes différentes de nous. C'est juste le fait qu'ils présentent une maladie qui est génétique. En dehors de ça, sur le plan physique, intellectuel, on a les mêmes droits aussi.
Merci à vous, docteur. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème « Quelle prise en charge médicale et sociale pour une vie épanouie des personnes atteintes d'albinisme au Niger ?» Nous retenons que l'albinisme est une réalité. Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de personnes atteintes d'albinisme au Niger, mais on estime qu'une personne sur 20 000 dans le monde est atteinte par cette maladie et une personne sur 4 000 en Afrique est atteinte par l'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes comme nous, ont eu à expliquer la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger ainsi que le docteur dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey, docteur Idé Hassan. Leurs droits doivent donc être pris en compte. La présidente a notamment évoqué la question des personnes atteintes d'albinisme qui sont dans des zones reculées du pays. Il y a eu des avancées, mais beaucoup reste encore à faire. Nous étions en compagnie de Mme Khadija Toumoumouni. Elle est la présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, une association qui lutte depuis novembre 2013 en faveur des droits des personnes atteintes d'albinisme au Niger. Et en ligne au téléphone, Dr Idé Hassan, il est dermatologue au Centre national dermato-lèpre de Niamey. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Degi pour la présentation de ce forum. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du forum de Studio Kalango. Passez une excellente soirée et au revoir.